m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers amis, bienvenue sur Radio Courtoisie, donc la radio libre du pays réel et aussi des livres absolument passionnants comme Le désir sexuel de Roger Scruton. Nous avons appelé cette émission Pulsion de vie, pulsion de mort, puisque après avoir analysé avec Radouche Tonescu qui a trouvé ce livre, qu'il a traduit, qu'il a préfacé, qu'il a annoté, nous parlerons de l'euthanasie. Voilà, d'un côté le désir sexuel, mais surtout cette enquête philosophique que Roger Scruton mène autour du désir sexuel, qui d'ailleurs est une réponse à Michel Foucault, mais on en parlera justement avec Radouche Tonescu, sachant que Le désir sexuel, évidemment, vient de paraître en français, donc en 2026, mais que c'est un livre qui a 40 ans ou presque, et qui donc est paru d'abord en Angleterre. Une véritable analyse philosophique, un sujet passionnant. Voilà. D'où vient le désir sexuel? D'où vient en fait tout ce qui environne le désir sexuel? D'où vient la pudeur? D'où vient l'impudeur? Qu'est-ce que signifie la pornographie dans ce système-là? Quelle est la théorie du genre? En fait, que sont nos corps? Que sommes-nous nous-mêmes? Qu'est-ce que les relations interpersonnelles ont à voir avec ce désir? Est-ce que ce désir est une pure construction intellectuelle, civilisationnelle, culturelle, ou est-ce qu'au contraire il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nature humaine? Eh bien, ce sont toutes ces questions que nous nous poserons avec Radouche Tonescu avant d'analyser avec Elisabeth de Courage et Victoire de Gégère ce qu'est cette pulsion de mort, inverse si j'ose dire, du désir sexuel, qui est en train de travailler une partie des parlementaires français, de moins en moins nombreux, mais hélas certainement le gouvernement, puisque tout le monde promet, il y a Yael Bonne-Privé en tête, que la loi sera votée et qu'évidemment, quand on dit qu'elle sera votée, c'est-à-dire on espère bien que le vote sera positif et qu'on va enfin avoir de l'euthanasie en France, beaucoup plus qu'on en a déjà. Repartons sur le désir sexuel, cette enquête philosophique. Bonjour Radouche Tonescu et bonjour Patrice Jean.
Bonjour Richard, bonjour Patrice.
Bonjour Radou.
Voilà, et donc je suis avec Marie-Charlotte Dubourblanc et Lucien Rabouille, avec qui nous allons discuter de ce désir sexuel.
Oui.
Radouche Tonescu, dans un premier temps, dites-nous, alors Scruton, c'est un auteur que vous connaissez déjà, vous avez traduit Le visage de Dieu l'année dernière, magnifique ouvrage, qui abordait bien sûr cette question des relations interpersonnelles, et qui était une manière de fonder d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire à la fois philosophique, mais aussi biologique, mais aussi ethnologique, ce qui nous pousse en fait à considérer qu'il existe une transcendance et la manière dont surtout nous considérons l'autre, comment est-ce que le je se constitue, comment est-ce que le tu se constitue, et le désir sexuel est d'une certaine manière une analyse d'une relation interpersonnelle bien précise qui est justement cette relation amoureuse. Bah, comment êtes-vous allé chercher ce pavé, donc 545 pages, une édition monumental pour un livre somme déjà à l'époque, donc qui répondait à Michel Foucault. Pourquoi le traduire 40 ans après?
Bah écoutez, tout d'abord, bah merci pour m'avoir invité pour parler de l'aboutissement de ce travail, un an de travail en effet sur le désir sexuel de Roger Scruton, un ouvrage en effet qui est apparu en 1986 qui est toujours d'actualité, enfin je trouve d'ailleurs encore plus d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque. Puisque comme toute œuvre philosophique sérieuse, en fait, elle est en quelque sorte intemporelle, elle n'est pas reliée tout à fait aux circonstances qui l'ont fait éclore. Ce n'est pas un écrit de circonstances, même si c'est une réaction en partie à Michel Foucault. Alors, comment j'y suis arrivé? C'est tout simplement un concours de circonstances qui m'ont fait découvrir Scruton. J'avoue que c'était aussi parce qu'il y avait une sorte de symétrie entre les deux ouvrages que nous avons proposés à notre communauté, parce que entre Le visage de Dieu et Le désir sexuel, je trouvais que ça se complétait très bien. On a fait ce diptyque J'avoue qu'au départ, je ne savais pas tout à fait dans quoi je m'engageais parce que je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Mais bref, je suis content du résultat. On a une communauté très soudée qui nous soutient pour publier ces ouvrages chez Carmin. Et sans cette communauté que je tiens à remercier encore une fois, on ne pourrait pas faire ces ouvrages gargantuesques. Donc voilà, je me suis penché sur ce texte pour les raisons que j'ai exposées partiellement dans la préface, notamment parce que Scruton offre toute une vision anthropologique qui me semble absolument essentielle pour défendre une manière de vivre qui maintienne des valeurs humaines congruentes à la fois avec le passé et qui ouvre les possibilités d'avenir, en fait. C'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire que Scruton défend une vision incarnée de l'homme. Alors, il a plusieurs ennemis, aussi bien Foucault, mais aussi Kant. Il a aussi comme ennemi Schopenhauer. Bref, ce qu'il veut avant tout défendre, c'est une vision très incarnée de l'être humain. Et ça m'a paru extrêmement actuel, contre notamment des visions très désincarnées, notamment celles qui postulent que l'être humain est un pur esprit qui flotterait, qui pourrait changer de corps, par exemple, ou qui pourrait se télécharger dans les versions techno-futuristes, qui pourrait se télécharger dans un ordinateur, par exemple, etc. Donc ça, c'est les versions techno-futuristes d'une même idée dualiste. Et donc, Scruton, à la différence de tous ces projets plus ou moins fous, vous avez évoqué l'euthanasie, ça pourrait être un peu un sujet qui toucherait aussi de cette façon. Mais là, ce qui est très intéressant et très révolutionnaire, c'est qu'il met au centre l'interpersonnalité. Et c'est-à-dire que, et ça, c'est ce qu'il explique d'une façon très simple, c'est qu'en fait, le désir est un mouvement réciproque entre deux individus incarnés qui comprennent mutuellement l'intention de l'un de l'autre. Et que c'est cette escalade de compréhension mutuelle qui augmente et maintient le désir, en fait. Et ça, je pense que c'était une idée extrêmement simple et extrêmement révolutionnaire en même temps, contre toutes les désacralisations, en fait, de la sexualité que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit la pornographie ou, par exemple, ou les viols de Mazan, par exemple, les viols de Mazan, qui ont l'affaire Pellico qui a éclaté l'an dernier, ben c'est un cas paradigmatique de perversion du point de vue de Scruton, c'est-à-dire le fait de réduire une femme uniquement à son corps, en fait, et d'exclure le désir de toute interaction justement avec une personne. Ça, c'est pour Scruton, c'est le fondement même, c'est la définition même qu'il veut donner de la perversion, en fait. Tout ce qui se rapproche plus ou moins de l'interaction avec un pur objet au lieu de maintenir une interaction sujet à sujet à travers un corps, est-ce que Scruton va appeler la perversion?
Ouais.
Et donc, c'est voilà.
Alors, cette perversion, vous avez prononcé plusieurs mots importants, évidemment, sujet, interpersonnel, corps. On voit bien que pour Scruton, comme une bonne partie de la philosophie occidentale, mais pas toute la partie, il n'y a pas une dichotomie entre l'âme et le corps. Il y a un jeu, et ce jeu est irréductiblement le corps et l'esprit mélangés. Je ne peux pas dire mon corps m'appartient car je suis mon corps, et donc je ne peux pas mettre mon corps à distance puisque ça signifierait je suis capable de me distancier de moi-même, ce qui est évidemment impossible. Et on sent que Scruton, d'un côté, réhabilite le corps dans une partie par rapport à une partie de la philosophie occidentale, voilà, par rapport aux purs esprits, par rapport à ceux qui considèrent que le corps est presque un accident de la personne, et que de l'autre côté, il glorifie, donc non seulement il réhabilite le corps, mais de l'autre côté, il réhabilite aussi l'esprit et cette alliance de la chair et de l'esprit contre ceux qui veulent réduire la personne humaine à une espèce de pur phénomène physico-chimique, de gènes égoïste qui cherche à se perpétuer, d'interaction d'une espèce de tribu animale qui serait justement réduite à de simples appétits ou que la culture et la civilisation auraient déguisé, mais dont la vérité serait une simple nécessité de reproduction et de perpétuation.
Oui, vous avez parfaitement raison. C'est
parce que je vous ai bien lu.
Ce qu'il veut réhabiliter, c'est avant tout une vision, comment dire, du corps comme un temple, pour utiliser une citation biblique, et une conception qui pose que le corps est habité comme un dieu habite son temple, et que donc il y a toute une conception de la pureté, de la souillure de ce corps. Et comme je l'ai essayé de le souligner dans la préface, on peut partir de l'exemple tragique du viol. Si un viol est un événement aussi traumatisant et aussi criminel, c'est qu'il s'agit du fait de souiller une âme en son corps, en fait, à travers son corps. S'il n'y avait pas cette habitation du corps par une âme, on ne pourrait pas véritablement saisir l'horreur de l'acte qu'est le viol. Voilà. Et donc, Scruton veut réhabiliter une vision justement sacralisée de la corporéité. Donc, et donc de l'unité, bien sûr, entre l'âme et le corps. Et il va affirmer que le corps, nous sommes notre corps, en fait. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne peut pas dire mon corps, mon choix. Ben, beaucoup de gens le disent. Hein. Enfin, et beaucoup de personnes vivent, justement, en fait, leur rapport au corps comme accessoire, en fait, pas du tout comme essentiel. Ça, je crois que je serais plutôt... Enfin, si Scruton insiste sur une façon de vivre sa corporéité, c'est bien qu'il existe des façons, différentes et qu'il ne va pas de soi que l'on habite son corps comme il le propose, en fait, de l'habiter.
Patrice Jean, merci d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la pensée de Scruton et à faire partie de cette entreprise radouchtonesquienne de traduction et de promotion de son œuvre?
Ah, je ne connaissais pas l'adjectif radouchtonesquienne.
On essaye de l'installer à Radio Courtoisie.
D'accord, vous faites bien. Écoutez, c'est Radu Sonescu lui-même qui m'a parlé de Roger Scruton depuis quelques mois, quelques années peut-être. Il m'avait envoyé Le visage de Dieu que j'avais lu en partie, et je crois que, enfin, on peut révéler les coulisses. Radu aurait bien aimé que j'écrive la préface du désir sexuel. Il l'a fait lui-même, et je pense que c'était très bien que Radu l'écrive lui-même, parce que ayant traduit le livre, l'ayant annoté, il était, je crois, le plus à même aujourd'hui de d'écrire une préface. Donc, je suis venu à Scruton par Radu. Au préalable, j'aimerais quand même dire que je n'ai pas encore lu entièrement le livre. Donc, si vous me posez une question précise sur une page, je serais peut-être un peu embêté.
C'est dommage, parce que je comptais vous interroger précisément sur le passage où on est en train de décrire la manière goulue dont une araignée est en train de considérer sa femelle.
je crois que je l'ai lu ce passage.
Oui, mais je crois on l'a tous lu, parce que donc évidemment le livre de Scruton.
C'est pas Scruton, ça.
C'est pas de Scruton. Effectivement, c'est de Peckham, si je ne m'abuse. Et donc je vais me permettre de lire un tout petit peu ce texte et ensuite d'expliquer pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec les amours arachnéennes d'un mâle et d'une femelle. Le 24 mai, nous avons trouvé une femelle adulte et l'avons placée dans l'une des plus grandes boîtes. Le lendemain, nous y avions introduit un mâle. On a l'impression de se retrouver dans Love Story. Il l'aperçut alors qu'elle restait parfaitement immobile à une trentaine de centimètres. Ce regard sembla l'exciter. Il se mit immédiatement en mouvement vers elle. Lorsqu'il fut environ à 10 centimètres, il s'arrêta, puis commença la plus remarquable des performances qu'un mâle amoureux puisse offrir à une femelle admirative. Elle le fixait avec avidité. On est en train de parler des huit yeux, d'une tarentule moyenne. On ne sait pas comment Peckham fait pour déceler l'avidité et le désir sexuel dans le regard de l'araignée, mais il y arrive. Elle le fixait avec avidité, changeant de position de temps à autre pour ne pas le perdre de vue, lui redressant entièrement son corps d'un côté en allongeant ses pattes et l'abaissant de l'autre, en repliant les deux premières paires sur lui, s'inclina au point de risquer de perdre l'équilibre. Bref, ce que veut nous dire Scruton, c'est qu'il y a là une lecture quasi anthropomorphique, évidemment, du désir sexuel chez l'araignée, mais que cette lecture lui paraît, somme toute, ni plus ni moins pertinente que d'autres lectures totalement biologiques du désir sexuel chez l'homme. Et ce qu'il reproche d'une certaine manière à ceux qui font du sexe une science, c'est l'idée de cette réduction en fait de l'homme et de la femme bien sûr, au corps, aux purs appétits biologiques et même à une espèce de chimie physique qui entraînerait une espèce tout entière dans des rites de reproduction qui ne seraient en fait que des superstructures inutiles.
Eh bien.
Oui, eh bien, nous dit Lucien Rabouille.
Cher ami, merci pour la publication de cet ouvrage. Il y a un autre ouvrage fondateur pour la pensée de la sexualité dans le monde anglo-saxon, qui nous vient aussi d'ailleurs de des grandes universités anglo-saxonnes. C'était, vous le connaissez sans doute, L'amour et l'amitié d'Alan Blom, qui est paru, je crois, au cours des années 80. Il me semble que la réflexion, parce que j'en entends, puisque pas encore dévoré ce pavé, mais je vais m'y atteler dès que possible, est assez similaire. Alan Blom notait notamment qu'on voyait des adolescents agiter des préservatifs au cours des années 80. On était à l'époque en pleine pandémie de sida. Et bien sûr, il n'était pas forcément défavorable à ce qu'il y ait des précautions soient prises. Et il notait par ailleurs que les Américains allaient vers de plus en plus de tolérance en matière sexuelle, chose à laquelle il était sensible et à laquelle il n'était pas défavorable lui-même, notant que l'Amérique revenait de très très loin en matière de puritanisme sexuel. Les années 50 et les années 60 furent des années de prohibition et de grande répression. Mais il semblait aussi regretter une dépoétisation du sensible et une sorte de réduction de la sexualité, non pas comme l'a dit Richard de Sèze en passion physiologique, passion biologique, assouvissement de pulsions, qui est d'ailleurs, comme vous l'avez noté, une forme de puritanisme. Sous couvert de libération, cette passion physique et biologique ne s'intéresse pas à ce que l'autre dit, à ce que l'autre pense, et finalement affiche un puritanisme qui est plutôt celui de la performance et justement de sorte de stakhanovisme, etc. Bon, j'en passe. Et il se replongeait dans l'histoire des représentations de la littérature amoureuse en Occident, notant déjà que c'était beaucoup plus ancien que la libération sexuelle, ça fait 2 millénaires qu'on se pose la question de la sexualité. Et pourquoi je parle de lui et non pas de Roger Scruton?
Long développement pour répondre à une question que tout le monde se pose.
Peut-être justement que l'un et l'autre avaient pu noter aujourd'hui, et je rejoins sans doute la remarque de Richard de Sèze, qu'il y a un spectre qui hante finalement la sexualité, c'est celui du puritanisme. Et on voit qu'il se renouvelle sans cesse. Ce puritanisme, c'est peut-être un puritanisme de la prohibition. Il a vécu aux États-Unis, il a été aussi une partie de notre appareil répressif et de normes sociales en France au 19e et 20e siècle. Et il peut aussi, comme vous l'avez dit, prendre la forme justement d'une performance sur un pont très pornographique, alors même que, in fine, cette culture pornographique du sensualisme, n'est-ce pas, on palpe, on touche, on regarde, comme au 18e, avait pour finalité la libération sexuelle. Est-ce que c'était l'objet de l'ouvrage de René Scruton, comme c'était l'objet d'ailleurs de l'ouvrage d'Alan Blom, de lutter contre ce puritanisme résurgent qui se travestit, qui se déguise en libération sexuelle sous couvert de culture pornographique ou de culture de la performance et de la vivacité sexuelle.
C'est pour vous. Quand c'est compliqué, c'est pour vous, Radou.
Non, je pense que il lutte pas spécialement contre la libération ou contre le puritanisme, c'est justement, je pense, qu'il veut sortir de cette dichotomie-là, justement. En fait, Scruton veut dépasser cette opposition entre libéralisation ou libération sexuelle et opposée au puritanisme. D'ailleurs, il y a des analyses très intéressantes où il montre que le puritanisme, justement, a un envers qui est justement une licence absolue. En fait, quand les analyses sur Kant, notamment, où il explique que, en fait, ce contre quoi il lutte, c'est le fait de réduire à la sexualité justement une pulsion animale, en fait. Ce qui l'intéresse, c'est d'expliquer que le désir sexuel est un phénomène humain avant toute chose, c'est-à-dire justement un phénomène humain. Pourquoi humain? C'est-à-dire qu'il est strictement dépendant de l'interpersonnalité. C'est ça qui est très important pour Scruton. Ce qu'il n'a pas du tout inventé, et comme je l'explique dans la préface, c'est pris de Thomas Nagel, donc d'un autre philosophe américain. Donc l'interpersonnalité, il ne l'a pas inventé, mais c'est ça restera son concept fondamental. Et ce qu'il veut expliquer, c'est avant tout que justement que les phénomènes humains et les phénomènes érotiques dépendent de l'interpersonnalité. et que si on essaye de les expliquer à partir des animaux, justement, si on essaye de réduire l'homme à un animal, en fait, on rate le sujet, on rate l'éros, on rate véritablement l'amour. Enfin, l'amour, on rate vraiment le désir érotique. Ce qu'il veut avant tout expliquer, c'est cela, en fait. Et donc, il lutte aussi bien contre une libération sexuelle qui prétendrait que si on considérerait le désir sexuel uniquement comme une chose animale, eh ben on n'aurait plus de culpabilité, on n'aurait plus donc de tabou et on pourrait gambader dans les prés et être joyeux et heureux, etc. Il lutte contre cette vision-là. Parce que ça, c'est un peu la vision, justement, 68 tard, on pourrait dire vite fait, en tout cas, cette vision qu'on pourrait libérer la sexualité de tout un carcan superflu lié à une culture superflue, elle aussi. Voilà. Et ça, ce qu'il dit, ça, c'est juste impossible. Vous libérez la sexualité, vous allez tout simplement détruire la sexualité. Il n'y a pas de libération de la sexualité pour Scruton. Et donc, il analyse, bien sûr, l'aspect négatif de cette volonté de libération qui va être le développement de la perversion, en fait. Parce que ça, il a tout un chapitre sur, effectivement, à partir du moment où on veut se libérer de l'interpersonnalité, eh bien, on va traiter l'autre comme un objet. On n'aura pas le choix. Si on ne veut se libérer de... Ce qu'il veut expliquer d'une façon ou d'une autre, c'est qu'automatiquement, la relation amoureuse est une relation entre des personnes. Donc, automatiquement, il y aura des questions de culpabilité, des questions de tabou, des questions... Voilà, oui, parce qu'il y a un rapport à l'autre. Il n'y a pas un rapport à un objet. Donc, il n'y a pas de libération.
Vous dites culpabilité, vous dites perversion, etc. Mais en fait, il emploie un autre mot et que vous-même, vous employez votre préface. Tiens, en fait, c'est des questions de pudeur. Et cette pudeur que d'aucuns stigmatisent en expliquant que ce sont des réflexes qui n'ont pas lieu d'être et qu'effectivement, autant joyeux où le Néandertal batifolé dans la jungle, voilà, il n'y avait aucun problème à montrer ces parties qui n'étaient pas honteuses, puisqu'on ne le disait pas comme ça à l'époque. D'ailleurs, on ne parlait pas, on broumfait parfois quelque chose tout en dévorant des chenilles. Chez Scruton une réhabilitation de la pudeur, mais pour une raison bien précise. Et comme vous le dites dans votre préface, citant Scruton, je peux tomber amoureux d'une personne en contemplant son portrait, je ne peux pas tomber amoureux d'elle en voyant une photographie de ses organes génitaux. Et donc Scruton montre bien justement qu'il y a d'un côté l'excitation sexuelle, mais que cette pudeur, en fait, n'est pas n'est pas carcérale, que cette libère n'est pas une espèce de carcan qu'on impose au désir, mais qu'au contraire, vous le dites, contrairement à ce que voudrait la vulgate libératrice, s'il existe cette pudeur, c'est parce que les sujets doués de corporéité, autrement dit, nous qui avons un corps, nous craignent tout naturellement de n'être pris que pour des objets. La pudeur, en fait, c'est une manière, dans les relations interpersonnelles, non pas de créer le désir, mais de bien vérifier que ce qui m'amène à l'autre n'est pas un désir de prédation, un désir de consommation, et réciproquement, la personne vers qui je vais veut tester qu'elle n'est pas un objet, qu'elle n'est pas une proie, qu'elle n'est pas quelque chose qu'on va consommer comme un donjon, mais au contraire, voilà, que je reconnais dans mon approche amoureuse l'autre personne comme étant une personne égale à moi-même.
Oui, c'est ça. Mais oui, ce qu'il va défendre à propos de la pudeur, c'est que c'est plutôt un réflexe justement naturel de toute personne douée de corporalité, que ce n'est pas le résultat d'une culture patriarcale ou que sais-je. Enfin, pour Scruton, c'est anthropologique. La pudeur serait un mouvement naturel de dissimuler ce qu'il y a de plus excitant chez soi pour justement ne pas se présenter à autrui comme un objet de convoitise. C'est ça ce qu'il veut expliquer, en fait. Et donc, pour Scruton, l'homme en tant qu'homme a toujours été pudique. Si l'homme n'a jamais été un animal, l'homme a toujours été pudique. Et on le sait même chez les tribus les plus dévêtues, il y a toujours eu une dissimulation des parties sexuelles. Donc voilà, il n'y a jamais eu de bon sauvage qui batifolait dans les prés, ça c'est, on le sait. Donc,
Voilà, il n'y a jamais eu de bon sauvage qui batifolait. Et du coup, Scruton part en guerre rapidement, si j'ose dire,
c'est ça qui est intéressant.
Contre Freud, par exemple, qui considère que l'œil est un organe sexuel. Et Scruton dit bah non, en fait, l'œil n'est pas un organe sexuel, c'est un organe d'acquisition sensorielle, mais ça n'a rien à voir avec un organe sexuel. Et il part en guerre comme ça contre une série de prétendus grands penseurs de la sexualité qui sont à chaque fois nier ce qui serait profondément humain et donc qui est la thèse de Scruton, que le désir est un phénomène profondément humain et c'est précisément lui qui suscite ce sentiment inhibant de décence qui autrefois interdisait toute discussion à son sujet.
Cher Richard,
oui,
quand vous dites Roger Scruton part en guerre, si je puis me permettre de rebondir sur votre remarque, et effectivement le traducteur et l'expert de Roger Scruton pourra vérifier l'intuition. L'ouvrage était sans doute de circonstances des années 80, et on se demande, on comprend pourquoi il a été écrit, et on voit qu'il a profondément creusé le sujet du désir, etc. Mais il faut aussi se demander contre qui il a été écrit. Ce n'est peut-être pas forcément, effectivement, contre un puritanisme victorien, nouveau, résurgent, mais peut-être était-ce finalement contre cette culture pornographique qui, encore une fois, vient de très très loin. Roger Scruton mobilise beaucoup de références, effectivement, il y a des références littéraires, comme le fait Alan Blum dans L'amour et l'Occident, et notamment celle de la passion, non pas de l'être tout entier, chair et âme qui fusionnent et qui peuvent communier ensemble dans la passion amoureuse, mais contre cette culture du démembrement, séparation de l'âme du corps, vous le disiez, mon corps m'appartient, le sujet est différent de l'objet, mais également cette culture qu'on voit au 18e dans la littérature sensualiste, qui palpe, vous voyez, un bout de sein, un bout de fesse, etc., qui démembre. Non mais bon, il faut dire ce qui est.
Je note 17h55.
Et qui peut se prolonger dans la culture pornographique, parce que on va pas écœurer les auditeurs, mais qu'est-ce que la pornographie? C'est du zoom. Oui, on zoome sur un acte. On réduit l'entièreté de la relation entre deux êtres à un acte. Vous voyez lequel? Bon. On zoome sur une partie charnelle. Vous voyez effectivement lesquelles?
Non, je ne vois rien, mais
vous supposez lesquelles. Donc, il y a sans doute cette culture du démembrement, mais, et c'est là où j'en reviens à l'actualité de l'ouvrage, par rapport aux nouvelles révolutions sexuelles qui ont lieu, notamment cette prohibition du sexe. Cette culture pornographique et sensualiste du démembrement qui fait qu'on est plus fasciné par chair et âme, comme le rappelle notre invité et comme le rappelle Roger Scruton, mais par une partie du corps, conduit à une passion du corps, dans tous les sens du terme. On se passionne pour le corps et on finit finalement par le sacraliser, dans sa dimension matérielle. Et qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à tout à chacun? On sait les faits divers sordides, on sait les séries de procès, on sait aussi l'extension du champ de l'agression sexuelle. On sait tout cela aujourd'hui. Et on parle parfois d'un retour du puritanisme avec MeToo. N'est-ce pas justement aussi le résultat de cette passion du corps? N'est-ce pas à force de se passionner pour le corps, sur un mode sensualiste ou pornographique, qu'on l'a érigé comme étant la seule chose qui devait rester et la seule chose qu'on ne pouvait finalement pas toucher? Et que de pornographie, on est arrivé à un corps qui soit sacré, donc littéralement intouchable. Bref,
mais c'est, je suis d'accord avec les propos de Lucien, mais je pense que au-delà de ce que la société présente depuis quelque temps, c'est aussi la promotion de l'individualisme. C'est la recherche du désir uniquement personnel. C'est ça que présente la pornographie notamment. Ce que n'est pas l'érotisme. Enfin, je ne sais pas ce que.
Ça, c'est le moment où vous devez répondre, Radu, je te dis, il y a justement un chapitre dédié à l'amour érotique dans ce grand livre qu'est Le désir sexuel aux éditions Carmin.
Non, la différence que fait Scruton entre la pornographie et l'érotisme, c'est la différence entre la perspective en première personne et la perspective en troisième personne. C'est-à-dire que, en fait, Scruton n'est pas du tout un puritain et il ne veut absolument pas rétablir en quelconque. Enfin, ce qui l'intéresse, c'est justement de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'interaction véritablement humaine. Et dans une interaction érotique, quand on pense à sa bien-aimée, quand on la voit et que l'interaction, justement, elle est en première personne et qui implique le corps de chacun, il n'y a pas d'obscénité. L'obscénité et la pornographie surgit quand il y a la perspective par le trou de la serrure, dit Scruton, c'est-à-dire que justement quand on observe des tiers qui justement accomplissent l'acte de chair, et ça c'est la pornographie, c'est-à-dire la perspective en troisième personne. Et ça c'est valable de la façon dont sont mises en scène les films pornographiques, même quand on voit à la vieille époque, il y avait les films érotiques. Les films érotiques avaient une autre perspective sur les choses que les films pornographiques. Ça a complètement disparu, j'ai l'impression, les films érotiques de nos jours. Mais et je crois que ça a à voir avec avec, je ne sais pas si c'est la sacralisation du corps. Je ne crois pas, Lucien, je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment de cela. C'est justement plutôt une sacralisation de la perspective à la troisième personne, donc, c'est-à-dire un démembrement. Mmh. Et donc, justement, le corps n'est plus vécu comme étant habité. C'est ça. Ce qui, enfin, encore une fois, il n'est pas vécu en première personne.
Et même au contraire, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on voit bien que si le corps n'est qu'un agrégat de fonctions organiques, ce contre quoi Scruton s'oppose, si le corps n'est que ça, la pornographie s'acharne à nier le caractère personnel de ce corps-là. Et au contraire, il y a une volonté de souillure qui est évidemment présente.
À nier le visage. Scruton insiste beaucoup, c'est pour ça que d'ailleurs il y a un rapport avec l'autre livre, Le visage de Dieu. Pour Scruton, le visage de l'être humain, justement, est quelque chose de particulier parce que c'est là où on voit la liberté incarnée, en fait. Et la pornographie, elle élimine le visage. Il a des analyses très intéressantes sur. Dans la pornographie, le visage des membres, de ceux qui se donnent en spectacle, justement, le visage est quelque chose qui est en surcroît, qui gêne tout le monde, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est souillé, mais en fait, le visage ne fait pas partie de la scénographie pornographique, parce que justement, la scénographie pornographique devrait montrer uniquement des corps joyeux abandonnés à leur flux, quoi.
Mais cher Radu, vous écrivez en causeur, je crois, moi également. Notre journal et certains contributeurs voient parfois une contradiction entre justement cette culture pornographique du corps qui s'exhibe, du corps qui jouit, du corps sur lequel on zoome, du corps passionné, et en même temps un retour d'une certaine prohibition. Série de procès, des pratiques qui aujourd'hui ne sont plus admises, etc. etc. Est-ce que justement la réflexion de Roger Scruton ne peut pas nous permettre de penser ensemble ces deux événements? Est-ce que ce corps pour lequel on se passionne, encore une fois, ce corps sur lequel on zoome, devient par la force des choses plus susceptible, puisque c'est notre corps, justement, c'est le corps qui devient objet de performance, c'est le corps qui devient objet d'adoration, vous voyez, et c'est le corps qui, du coup, auquel on donne ou non accès, et c'est le corps qu'on ne touche pas, finalement, vous voyez.
Je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Je pense que le puritanisme est un des effets plutôt... Comment dire je dirais c'est l'envie de pénal, comme disait Philippe Muret, en fait. Le puritanisme, c'est qu'on a envie de faire des procès pour des choses qui paraissaient banales ou acceptées à une époque, parce qu'on souhaite... avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est un peu ça. Moi, je crois que le puritanisme n'est pas...
Ne procède pas directement de notre histoire de l'érotisme et de...
Alors, mais ne nous perdons pas trop dans l'érotisme. Ce qui est intéressant, c'est surtout cette dichotomie avec d'un côté une série de penseurs qui veulent voir dans l'homme uniquement des fonctions organiques, et par exemple les sociobiologistes ou Freud, donc qui rabattent l'homme sur cette dimension corporelle, ou au contraire, et il y a un chapitre assez amusant sur le féminisme kantien, sur ceux qui veulent ne voir dans l'homme qu'une espèce de pur esprit tombé quasiment par accident dans un corps, et un corps qui est une espèce de proposition matérielle qu'on peut modifier à volonté et qu'on peut même ignorer.
Ça me paraît la partie la plus actuelle, et j'aimerais bien avoir l'avis de Patrice Jean là-dessus, parce que c'était la partie qui, moi, me semble le plus actuelle et la plus prophétique de Scruton, parce que je pense que c'est la plus actuelle, parce que là, il évoque très brièvement, mais je le souligne dans la préface, les problèmes de transidentité, les problèmes de modification de sexe, changement de sexe. Et ça, c'est justement, pour lui, c'est un effet pervers d'une mauvaise philosophie, c'est-à-dire... si je reconstitue l'argument de Scruton, et qui me paraît vraiment extrêmement fort, c'est de dire, la plupart, aujourd'hui, on conçoit que les gens sont de base des personnes et que d'une façon accessoire, ils ont un genre, et en plus, de façon accessoire, ils ont un sexe, mais que fondamentalement, ils seraient des personnes. Et Scruton renverse absolument ça. Il dit non, mais en fait, nous sommes de base des corps. Nous avons, bien sûr, des genres qui sont construits culturellement, et la personne elle-même est construite. La personne n'est pas du tout un fondement métaphysique qui nous permettrait de modifier tout le reste. Ce qui est réel, c'est le corps. Par contre, ce qui est artificiel, c'est le genre et la personne. Et ça, je trouve que c'est un argument extrêmement fort de Scruton contre toute les démarches transsexualistes, enfin en tout cas toutes celles qui postulent, voilà, je suis fondamentalement une personne, je pourrais modifier mon apparence, tout est accessoire, et par hasard, on m'a assigné à tel sexe, je pourrais changer, moi, en tant que personne libre, en dessous de tout cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Patrice, genre de cette analyse de Scruton sur ce sujet.
Ah non, mais moi, sur ce point-là, je suis totalement en accord avec ce que vous dites, hein, sur l'artifice de la personne. Si je peux lancer une polémique, parce que c'est quand même ça qui est rigolo, ce serait plutôt sur... Est-ce qu'il n'y a pas quand même chez Scruton un côté moral, en fait, éthique, et au fond, quand il décrit la sexualité, parfois j'ai du mal à faire le départ entre ce qui est une description phénoménologique du désir, etc., et la morale, en fait. Voilà, j'ai l'impression que, par exemple, vous parliez tout à l'heure de la condamnation, de la pornographie, de la perversion, etc., j'ai l'impression qu'il est plus dans cette idée qu'il va, qu'il a une idée, justement, quand même, de la personne. Alors, je me trompe peut-être parce que je ne connais pas assez bien Scruton, qu'il essaie de défendre, et que par conséquent, la pornographie pour lui est quelque chose de mal, en fait, hein, ça me gêne un peu, si vous voulez, dans sa réflexion. Pour moi, c'est plus intéressant de se poser la question, mais pourquoi la pornographie existe? Pourquoi le fait de vouloir réduire un autre être humain à un objet existe, plutôt que d'avoir un regard moral sur ces objets de réflexion.
Je ne dirais pas que Scruton a un regard moral sur ses idées. Et d'ailleurs, il en parle, et notamment dans les dernières pages. Et il explique qu'il y a un désir sexuel, que ce désir sexuel fait partie de la nature humaine. Il prend beaucoup de temps pour le distinguer d'un désir animal. Et d'ailleurs, il y a un passage qui est tout à fait intéressant... où il dit « Nous ne devrions pas accepter que le terme « social » utilisé tantôt pour décrire le comportement coopératif des êtres humains, tantôt l'agrégation instinctive d'un troupeau de bêtes, tantôt l'unité totalement cimentée de la ruche, soit utilisé de manière univoque. » Donc voilà, il récuse aussi bien cet esprit rendu au corps ou au contraire une des parties de la sociobiologie ou de la psychologie évolutionniste qui n'explique tout que par le corps ou bien par l'espèce. Et il dit, voilà, si l'homme est un être différent des autres animaux, et il le prouve d'une certaine manière, eh bien, il faut qu'on accepte, en fait, que cette différence... cultivé, et là pour le coup il y a un peu de culture, mais c'est surtout je ne peux être pleinement humain qu'à condition de m'accepter comme personne et non pas de me réfugier dans une vision maladive d'être un pur esprit ou dans une vision tout aussi maladive, morbide, d'être un pur corps. Et c'est donc tout
c'est
ce qui...
justement ce que j'appelle la morale, moi, en fait. C'est-à-dire, vous l'avez dit, il faut que je sois comme ci, comme ça. J'ai quand même l'impression que c'est un jugement moral qu'il porte sur Kant, sur Freud, qui aurait perverti d'une certaine manière les relations interpersonnelles liées au désir.
Mais ce n'est pas une morale, si je veux dire, qui est fixée. Quand j'entends le mot morale, je sors mon révolte. Non, pardon. Quand j'entends le mot morale, j'entends d'habitude une série de règles élaborées par une culture, une civilisation, pour faire en sorte que cette culture, cette civilisation perdure. Là, ce que dit Scruton, c'est qu'il y a une espèce de morale. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais c'est la nature même de l'homme qui fait que. Je suis pleinement homme à condition de, oui. Justement d'assumer mes deux parts et que tout ce qui m'entraîne d'un côté ou de l'autre en fait me diminue. Donc c'est pas une morale civilisationnelle ou culturelle, c'est l'idée que je passe à côté de moi-même si jamais je refuse l'intégralité de ma personne.
Dans ce que disait Patrice Jean, je pense pas que Scruton...
Je voulais empêcher Radu de parler.
Je pense pas que Scruton envisage la pornographie comme quelque chose de nouveau. Parce que Patrice Jean disait, il serait bien que Scruton s'intéresse sur le pourquoi la pornographie existe. Mais finalement, la pornographie, c'est parce qu'il existe de toute éternité, justement. Ce désir bestial, indéterminé, sur la toute première personne. Ce que Scruton veut dire, c'est qu'il y a une manière aussi de raffiner, d'habiter, de poétiser le désir. Et que finalement, la pornographie n'est pas quelque chose qui irait pervertir. C'est quelque chose qui est, de toute façon, depuis toujours.
Alors, Radu Stoniscu, voilà, répondez juste avant, puisqu'un auditeur nous pose la question, c'est Scruton, S-C-R-U-T-O-N. Voilà, aux éditions ouais, Carme.
La question
voilà.
est très drôle.
Merci. Oui, en fait, bah, c'est-à-dire que ou bien tout, Scruton déploie les conséquences de ce qu'il a posé au début comme axiome. C'est-à-dire que si on accepte que le désir est quelque chose d'interpersonnel, il y aura de toute façon de la morale, à partir du moment où on parle du désir. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire. À partir du moment où on considère que, oui, que c'est un rapport interpersonnel, c'est pas un rapport d'appétit, et il a beaucoup de chapitres où, justement, il va essayer de contester tout ce qu'il voit dans le désir sexuel en appétit. Et donc, à partir du moment où c'est un rapport interpersonnel, ben, les questions de morale vont être implicites, puisqu'il s'agit de comment je traite autrui. Donc à partir de là... pour lui, ça, et il l'assume complètement d'ailleurs. Il va dire oui, je fais à la fois du descriptif et du prescriptif. Alors il s'inscrit un petit peu. Effectivement, il assume qu'il y a en quelque sorte une essence humaine qui peut se sauvegarder ou se perdre dans certaines interrelations. Donc il assume cela. Il y a chez Scruton effectivement des pratiques qu'il va considérer comme dépersonnalisantes, en tout cas qui vont faire que l'individu ne se réalise pas, tout son potentiel d'être humain rationnel, en fait. Et ça, c'est ce qu'il explique très bien dans les derniers chapitres sur la politique sexuelle, c'est que oui, il y a un certain idéal moral, et il l'assume parfaitement, c'est pour ça que d'ailleurs c'est un philosophe conservateur, il assume parfaitement qu'il serait bien mieux de ne pas commettre de perversion. Donc c'est bien pour ça qu'il
Radu, que répondrait-il si c'était possible au marquis de Sade qui lui dirait oui mais moi Roger, tu comprends, je prends mon plaisir en réduisant l'autre à un objet. À partir de quelle morale il lui dirait que lui Sade a tort? Enfin qu'est-ce qu'il pourrait lui dire? Alors, je précise quand même que je suis plutôt du côté de Scruton, hein, mais...
Ça nous rassure, Patrice Jean.
Non, mais voilà.
Virginie, tu peux garder Patrice Jean en ligne, merci.
Non, mais Scruton, aussi bien que Sade, partageait la même morale, au sens que Sade considérait très bien que ce qu'il faisait était mal, puisque quand même, c'était la base de sa jouissance sadique. Donc, il partageait la même morale, Sade et Scruton. Sauf que Sade considérait que, justement, c'était le fondement de son plaisir sadique. Là, il n'y a pas d'opposition entre Scruton et Sade.
Sade aurait dit, pour être pleinement moi-même, vous parliez pour Roger Scruton, être pleinement soi-même, c'est dans une relation interpersonnelle où le désir circule entre les deux amants, si j'ai bien compris. Mais Sade aurait dit, non, mais moi, j'ai pas besoin de cette interpersonnalité, de cette réciprocité, et j'ai besoin, au contraire, d'un désir de domination, de violence,
oui, mais...
et je suis pleinement un homme à partir du moment où je le réalise.
Mais, sauf que ce n'est pas ce que dit Sade. Sade ne prétend pas être pleinement un homme. Sade prétend être pleinement ce petit être Sade. Jouisseur qui a décidé de se réduire à sa seule jouissance.
Non, Sade ne dit pas « je suis un petit être jouisseur ». Il avait une certaine estime quand même pour ce qu'il était, et au contraire, il est...
Il y a une partie de l'œuvre de Sade où malgré tout, il a une espèce de regard sur lui-même où on le sent assez lucide et assez honnête. Et où toutes ces fantaisies sordides et assez répugnantes ne l'entraînent pas du bon côté. Ce qu'il y a d'intéressant, si je peux me permettre, c'est que dans une autre perspective, l'être humain est un être en relation. Ce n'est pas pour rien que Scruton insiste sur le côté interpersonnel. C'est que on se rend compte que l'être humain n'est pas fait pour vivre isolé, que c'est un être qui va vers l'autre. Si je vais vers l'autre en ne me projetant que moi-même, fortement, je rate ma cible. Et c'est ça qui est dommage chez Sade. Enfin, le mot dommage est évidemment la pire des litotes que je pouvais imaginer. C'est qu'au lieu d'aller vers l'autre, voilà, il se contente de s'étendre lui-même. Et donc, c'est ça que lui répondrait Scruton. C'est-à-dire, vous avez en vous un appétit de l'autre, vous avez en vous une espèce d'incomplétude originelle qui fait que seul l'autre peut vous compléter, et vous refusez cette complétion, puisque, en fait, vous n'allez que vers des objets, et vous transformez par votre désir malvenu tous les autres en objets. Donc, forcément, vous serez toujours perpétuellement diminué, et diminué par votre propre désir perverti, pour le coup.
Mais est-ce que avec Scruton, il n'y a pas, dans la continuité d'ailleurs de ses travaux, une quête de l'esthétique? Et c'est justement ça qu'il a envie de présenter avec le désir sexuel. La recherche du beau, la recherche du bien, la recherche du vrai.
Ah oui, il assume totalement qu'il il est dans cette optique-là. Oui, bien sûr, il a d'ailleurs... Bien sûr, avant tout, Scruton, pour revenir sur sa généalogie intellectuelle, il était avant tout un philosophe de l'esthétique. Il a été formé d'abord comme tel par la disciple et l'exécutrice testamentaire de Wittgenstein, Hansen, donc Elisabeth Anscombe, et donc c'était elle sa directrice de thèse. Et il était avant tout un philosophe de l'art. Justement, il a beaucoup travaillé sur l'imagination, et ça, une des choses qu'il va défendre justement par rapport à Sioran ou par rapport à d'autres moralistes français. Il va considérer que l'imagination justement dans l'amour n'est pas du tout une illusion qui nous ferait perdre de vue la vérité brute des instincts et des organes, mais qu'au contraire c'est l'imagination, on pourrait dire créatrice ou esthétique, est un fondement de la création d'une relation interpersonnelle, en fait. Il parle de qualités tertiaires que l'on voit chez l'être aimé. D'ailleurs, après les qualités secondaires, qualités primaires, qualités tertiaires, ce qui dépend de l'imagination. Et je crois que ça, c'est un des thèmes qui vous a un peu titillé, cher Patrice.
Non, mais c'est parce que dans la préface, vous citiez Sioran et Chamfort. Oui. Chamfort qui parle de l'amour comme le contact de deux épidermes, enfin, et ce que je reprocherais à cette façon de montrer Chamfort assurant, c'était plus parce que chez eux c'était une boutade, je pense, si vous voulez. On peut pas les réduire à. C'était une façon de dire l'amour, c'est aussi ça, je crois. Et je pense que et Chamfort et Sioran était conscient que l'amour n'était pas réductible à une émission de sperme ou de peau qui se touche, mais par goût de la provocation, par goût littéraire, ils l'ont écrit. C'était ça que je conteste.
Oui, mais je pense qu'il y a quand même cette histoire de démystification, c'est-à-dire que là où Scruton va assumer qu'on se fait des films sur l'autre, mais qu'en quelque sorte c'est le fondement de la prise de responsabilité, de l'effet que l'autre nous fait, et effectivement, presque de lui octroyer un rôle dans notre propre vie. Et parfois, d'ailleurs, l'autre à qui on invente des qualités, il va se révéler paradoxalement peut-être à la hauteur des qualités qu'on lui a inventées. Je pense quand même que les moralistes français ont un certain goût quand même, non seulement pour la provocation, mais vraiment pour la démystification au sens de vouloir éliminer...
Un moraliste roumain, Radu.
Oui, bon, qui enjolive, tous ceux qui enjolivent, moi je parle de Chamfort plutôt.
D'accord.
Sioran a marché sur l'or brisé, bien sûr, mais je crois qu'il y a quand même un goût pour la démystification, alors que ce que je voulais dire dans la préface, c'est que Scruton assume contre la vision un petit peu des moralistes français, assume que on se fait des idées dans l'amour, et c'est normal, et c'est une fonction esthétique. Qu'il faut non pas regretter, parce que je trouve que par l'héritage des moralistes français on tend à regretter, voilà, on s'est fait des idées, on était amoureux, on s'est fait des idées, mais la brute réalité était que et on retombe sur des poncifs schopenhauriens ou je sais pas quoi, mais en tout cas,
les poncifs schopenhauriens, je sens la petite attaque là.
Parce que je voulais avoir votre opinion sur l'attaque qu'apportait Scruton contre Schopenhauer, justement, et ça, c'est une. Comme je dis, il s'attaque à tout le monde quand même. Il y a pas. Il s'attaque à Kant, à Schopenhauer. Il y a pas beaucoup de.
Il y a à Freud aussi.
Oui.
Mais est-ce qu'il les réduit pas quand même à un peu comme Chamfort ou Sioran à des caricatures, à des.
Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'à chaque fois que Scruton, dans son livre, s'attaque à une figure, il s'y attaque en mettant à jour les contradictions logiques du discours de Kant, de Schopenhauer, de Freud. Et alors évidemment, ça me va bien d'expliquer que Scruton met à jour les contradictions logiques de Kant. Je serais bien à peine. J'ai lu le livre, évidemment, ça m'a convaincu. Je suis incapable de répéter son argument. Mais ce n'est pas une caricature. À chaque fois, l'idée, c'est de montrer qu'il y a un impensé chez Kant, il y a un impensé chez Freud, et qu'il y a surtout une volonté chez les uns ou chez les autres, soit de nier le corps, soit de nier l'esprit, de rabattre l'esprit sur le corps ou d'oublier le corps pour privilégier l'esprit. Mais surtout, il y a aussi une perspective historique, c'est-à-dire il reprend, pourquoi est-ce qu'il reprend Kant, Schopenhauer, Sartre et les autres? C'est parce que il montre qu'il y a une espèce d'histoire de la philosophie où peu à peu on en vient à postuler un état de nature, on en vient à expliquer que c'est la civilisation et la culture qui ont produit des manières de percevoir et d'être, mais on postule une espèce d'état originel où ces questions ne se poseraient pas. Et en fait, ce que nous dit Scruton, c'est que si ces questions se posent aujourd'hui, c'est qu'en fait elles se sont toujours posées, quelle que soit l'expression plus ou moins raffinée qu'on a réussi à en donner.
Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il veut faire de la philosophie éternelle, comme il est dans une perspective. Et alors, bien sûr, il va traiter. En fait, il s'en prend premièrement à Platon, comme toujours. On est toujours toute la philosophie.
Mais ouais. Philosophie.
C'est des notes de bas de page dans l'œuvre de Platon. Encore une fois, une note de bas de page assez conséquente dans l'œuvre de Platon, c'est Scruton. Et c'est une note de bas de page à la vision platonicienne selon laquelle, voilà, il existerait, comme on le dit aujourd'hui encore, de l'amour platonique et qui serait spirituel, qui est dégagé du désir. En fait, l'objectif de Scruton, c'est surtout de dire que le désir sexuel peut être une expression de l'amour, en fait, pour dire très simplement. C'est ça ce qu'il veut défendre. Parce que ça, c'est souvent ce qui se sépare souvent chez beaucoup de philosophes, et notamment chez Kant, et chez Schopenhauer aussi, d'ailleurs. Il n'y a pas de... Le désir sexuel n'est pas une expression de l'amour, en fait. Donc ça, c'est vraiment... le désir sexuel n'est pas moral chez Kant. C'est bien pour ça qu'il s'en prend. Pour Scruton, non, le désir sexuel peut être moral. Il ne l'est pas tout le temps. Et c'est pour ça qu'il parle des perversions. Mais ce qu'il veut surtout défendre, c'est qu'on peut aimer et désirer quelqu'un en toute moralité, en fait. Et ça, contre les grands noms de la philosophie. Enfin, je veux dire, on oublie que Kant, c'est quelqu'un pour qui le désir sexuel n'est pas vraiment moral, en fait. Donc,
C'est pas vrai pour Schopenhauer, quand même. Parce que pour Schopenhauer, le désir sexuel et l'amour sont liés, indissolublement liés. C'est même la force de sa théorie de la métaphysique de l'amour, c'est qu'il ramène l'amour à une question de sexualité, à une question de désir et de corporéité, je pense.
Oui, mais Schopenhauer élimine l'individualité, puisque finalement...
Oui, mais c'est la philosophie, ça, c'est autre chose. L'espèce a plus d'importance, effectivement, que l'individu, oui, c'est vrai.
Mais il fait du désir sexuel l'expression d'une force aveugle qui nous traverse. C'est pas très loin du gène égoïste, d'ailleurs. En fait, sauf que c'est exprimé avec beaucoup plus de talent littéraire. Mais c'est quand même la même vision. Et là où c'est pas moral, c'est que ce n'est pas un rapport entre des personnes individuelles, finalement, qui compte chez Schopenhauer. Il arrive d'ailleurs pas. Enfin, Scruton, ce que Scruton montre chez Schopenhauer, c'est que Schopenhauer a du mal à expliquer que le désir est déclenché par une personne en particulier, justement.
Si, il explique vraiment. Hein, non. C'est même un peu bouffon dans la philosophie de Schopenhauer. Il va expliquer que telle personne qui a telle physique va aimer une autre personne parce que elle se complète. Un est grand, l'autre est petit, ou je ne sais quoi. Enfin, Non, il a vraiment une théorie là-dessus pour expliquer pourquoi on va désirer telle ou telle personne.
Oui, mais en fonction de la métaphysique qui est derrière, c'est-à-dire de la volonté de vivre qui est incarnée dans les différentes personnes. Et il faut accepter la métaphysique Schopenhauer pour comprendre cette explication.
Mais moi, je l'accepte.
Juste avant que ça ne se transforme en discussion sur Schopenhauer, mais même si évidemment ça fait partie de ce que Scruton apporte dans son dans son livre. Et vous insistez, Radu Stonescu, dans votre préface, et Scruton lui-même y revient, sur Michel Foucault et donc son histoire de la sexualité, et qui justement est dans une perspective totalement différente, donc d'une espèce de construction culturelle de quelque chose qui était totalement différent dans les origines. Et c'est vraiment une œuvre de philosophe de l'éternité, mais c'est vraiment une œuvre aussi bien de biologiste. C'est quelqu'un, Scruton, qui veut prendre le corps pour ce qu'il est, ne veut pas faire l'ange pour oublier la bête. Il prend le corps et il montre qu'il a presque une espèce de constitution naturelle du désir sexuel chez l'homme, mais que c'est une constitution qui est radicalement différente de celle de l'animal. Donc contre Foucault.
Ah oui, ce qu'il veut défendre contre Foucault, c'est... Alors, pour rappeler un peu Foucault va considérer... Alors bon, l'histoire de la sexualité, c'était un grand projet qui n'a jamais été achevé, et en plus, il est tombé malade. Bon, donc en fait, entre le premier tome et le troisième tome, il y a le quatrième tome qui est sorti il y a quelques années à partir de ses notes. Mais enfin, ça devait être un ouvrage en 7 tomes. Bref, il a jamais pu l'achever. En plus, sa maladie l'a vraisemblablement a infléchi le projet initial. Chez Foucault, c'est surtout une différence avec Scruton entre l'homme comme carrefour de force, donc du pouvoir. En fait, pour Foucault, c'est une histoire de structure qui traverse l'individu et qu'il va analyser avec brio, alors que Scruton va défendre l'individualité, le visage, l'irréductibilité de chaque individu. Et c'est là où il y a le point de friction fondamental. Et donc, pour Scruton, il va dire, non, mais le désir de l'individu, c'est pas un effet de force politique, en fait, qu'on pourrait analyser en fonction de chaque époque. Et ce qu'il va essayer de montrer, c'est qu'à chaque époque, des problèmes de pudeur, des problèmes de rencontre interpersonnelle se posent de la même façon, en fait. C'est ça, son projet. Donc, il va montrer qu'aussi bien dans le Japon impérial qu'au XVIIIe siècle, qu'au XXe, que tout... Et c'est pour ça qu'il va prendre souvent beaucoup d'exemples de la littérature, des opéras. Et c'était un wagnérien, Scruton. Donc, il va essayer de montrer que les problèmes du désir sexuel amoureux sont universels, que dans toutes les cultures, on se les posait à peu près de la même façon, contre Foucault, qui voulait considérer que les problématisations du désir sexuel étaient spécifiques à chaque époque en fonction des jeux de pouvoir, en fait.
Radu Stonescu, donc c'est un livre dont on a bien compris qu'il a une forte dimension philosophique. C'est aussi un livre qui analyse un certain nombre de débats contemporains et qui, 40 ans à l'avance, nous plonge dans les questions du genre, mais aussi ces questions sociales avec ce que la pornographie, justement, totalement débridée, a réussi à produire dans une partie des jeunes générations. Si vous deviez recommander le désir sexuel, enquête philosophique aux éditions Carmin, comment vendriez-vous, entre guillemets, le livre, outre le fait que lire Scruton est une espèce de plaisir intellectuel rare, puisque c'est un auteur qui s'empare de questions complexes et qui le fait avec minutie, mais en réussissant à ne pas être incompréhensible. Chaque page est raisonnablement lumineuse et on se rend compte en cheminant qu'on est arrivé au bout de questions complexes, non pas sans s'être rendu compte que c'était intelligent, mais en n'ayant pas été rebuté par un vocabulaire de professionnel de la philosophie.
Alors, écoutez, c'est surtout un livre qui veut réhabiliter l'amour et l'érotisme, en fait. On pourrait dire que c'est presque un livre qui veut réhabiliter, tout simplement. Alors, avec justement toute la puissance intellectuelle de Scruton et toute sa culture universelle, mais ce qu'il veut réhabiliter, c'est le fait que c'est merveilleux de rencontrer une personne et de tomber amoureux, en fait. Et surtout, que c'est merveilleux et que le désir sexuel que l'on éprouve est une manifestation de l'amour pour cette personne. C'est surtout ça ce qu'il veut réhabiliter. D'accord. Et ça, c'est vraiment contre Platon, contre Kant. Enfin, Platon et Kant sont deux philosophes qui vont dire que l'expression du désir sexuel, que le désir sexuel n'est pas une expression de l'amour, en fait, vraiment pour la personne. C'est un peu plus compliqué pour Platon, mais en tout cas, c'est ça ce qu'il veut réhabiliter avant tout. Il veut réhabiliter finalement quelque chose que nous vivons tous, j'espère, à certains degrés, c'est-à-dire de tomber amoureux et les joies aussi les peurs et le désespoir et toutes les choses que l'on vit quand on tombe amoureux, mais amoureux vraiment d'une personne incarnée. Et c'est ça qui veut réhabiliter. Il a une phrase très très belle. Il dit vraiment dans le... Et ça, je l'ai rappelé dans la préface. En fait, il explique que dans le désir sexuel amoureux, on transforme son partenaire en un chez-soi, en fait. Il y a cet aspect, le corps de l'autre, et surtout le corps de l'autre, le corps de la personne aimée, devient un chez-soi. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que justement, ça va permettre de nous réconcilier avec notre finitude, justement, avec l'aspect mortel de notre corps, en fait. Et c'est ça ce qu'il veut, en défendant le désir sexuel, ce qu'il veut surtout défendre, c'est aussi tout simplement une joie de vivre dans l'incarnation.
Une joie de vie dans l'incarnation. Merci beaucoup Radu Stonescu, merci beaucoup Patrice Jean. On se disputera sur Schopenhauer une autre fois. Il reste à dire que voilà, ce sont les éditions Carmin qui publient cet excellent livre, Le désir sexuel de Roger Scruton. Voilà, quelqu'un nous disait, on a l'impression d'entendre Scrotum, c'est assez bizarre. Non, Scruton. ou Scruton. Voilà.
Et ça, les éditions vient après le visage de Dieu qui est préfacé par Rémi Braque, donc pour vos auditeurs. Monsieur Rémi Braque nous a fait l'honneur de préfacer le premier Scruton qui est sorti en novembre dernier. Voilà.
Et les éditions Carmin, donc c'est très simple, édition au pluriel sans accent aigu, édition trait d'union Carmin au singulier .com, et voilà, vous pouvez commander le livre aux éditions carmin.com, et voilà, de toute façon vous serez guidé si jamais vous tapez Le désir sexuel de Roger Scruton pour pouvoir acquérir cet ouvrage. Merci beaucoup Radu Stonescu, merci beaucoup Patrice Jean.
Merci pour l'invitation, merci.
Voilà.